Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau moment de goût et de luxe en votre compagnie. Un moment précieux, un moment festif en compagnie de mon complice de toujours, Emmanuel Rubin, éditeur des éditions Jaloux. Et pour cette dernière de l'année 2016, nous finissons l'année en fanfare autour de la table. Et oui, c'est souvent le cas. Pour Noël, nous vous offrons la crème de la gastronomie parisienne de 2016. Écoutez bien, votre repas de fête, ce sont les chefs Christian Le Square, Yves Candebord, Mathieu Paco et le pâtissier Yann Couvreur qui vous le concocte. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Boudelux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et pour les nouveautés de la semaine, on retrouve également Sandy Prenois. Bonjour,
bonjour
Sandy. Emmanuel, la table de la semaine, la dernière de 2016.
Exactement, et on ne peut pas finir une année 2016, une année de table à Paris, sans parler d'Italie. C'est
ah
comme
ben
ça.
C'était... Ils étaient là, ils étaient partout.
Ils étaient partout cette année. Il y a une adresse dont on n'avait pas vraiment parlé, qui a déménagé, et c'est toujours risqué pour une adresse, du côté de la fin de l'été, début de l'automne. Ça s'appelle désormais l'Osteria Ferrara. Et c'était avant le Café d'Éthiopie. Café d'Éthiopie, c'était dans une petite impasse du côté de la Bastille. Ils ont déménagé toujours dans le même quartier, au 7 de la rue de Dahomey. Et c'est sincèrement, d'ores et déjà, l'un des meilleurs restaurants italiens de l'année et l'un des meilleurs restaurants italiens de Paris tout court. Pourquoi ? Un duo. Alors, ils sont pas couple à la ville, je crois pas. En tout cas, ils sont couple dans leur adresse. Et c'est vrai que c'est toute l'Italie qu'on aime. Non seulement parce qu'il y a une science du produit, cette manière de l'aborder dans sa grande simplicité. J'allais presque dire, on pourrait parler des pastas du jour, on pourrait parler de tous les produits, de leur belle extraction, mais sincèrement, c'est le risotto qui l'emporte. Il y a chaque jour un risotto différent. Et vous savez, en Italie, on parle de l'odore di femminile, cette espèce d'instant où le risotto devient féminin. Il faut qu'il roule en bouche, un peu comme un baiser. Eh bien, si vous voulez savoir ce qu'est le maître étalon d'un risotto, vous allez à l'Osteria Ferrara. En plus, ils ont récupéré une espèce d'auberge du coin de quartier de la rue de Dahomey qui était un petit peu en perdition. Simplement, le lieu, il avait de la gueule. Des boiseries, un parquet qui crissait. Un peu, ils ont joliment refait ça. On parle beaucoup de l'auberge qui va être la suite. On a beaucoup parlé ces dernières années des restaurants branchés, des bistrots, des restaurants haut de gamme.
Et maintenant, c'est l'auberge urbaine.
C'est l'auberge. Alors, à la fois, les auberges du coin de la route, on le voit avec beaucoup de chefs qui, en province, essayent de bousculer les choses. Et puis, dans les grandes villes, l'auberge urbaine. En Italie, ça a un nom, ça s'appelle l'Osteria. Et donc, ici, ils ont baptisé ça Osteria di Ferrara. Il y a tout ce qu'on aime dans une auberge contemporaine. Et puis, c'est la belle saison des truffes et les Italiens aiment ça. Donc, c'est aussi une table de fête.
Cette rue de Dahomey dans le 11e arrondissement de Paris. Allez, les hôtels, hein, ça continue, ça se poursuit. Le premier, l'hôtel Snob. On est rue Saint-Denis, du côté du premier arrondissement, parce qu'on est au 84-86 rue Saint-Denis. Donc, Snob, signé Dorothée Delay et Daphné Desjeux pour l'architecture d'intérieur. On est au cœur du quartier des Halles, un boutique hôtel. C'est pas si souvent. Voilà un nouveau quartier hôtelier. Donc elles ont tout dessiné. Maintenant, c'est l'idée, non seulement le mobilier, le concept, mais aussi les 24
croissants.
Chambres, l'identité visuelle. Non, mais c'est un tout aujourd'hui, le design. Et donc, on est un petit peu sur le boudoir revisité, tendance noir et bordeaux, du laiton, des tableaux surprenants, du noir et blanc. Voilà, so chic.
Et puis, surtout, on disait souvent que Paris ne bouge plus, mais qui eût cru, il y a 13-15 ans, qu'un hôtel baptisé Snob pouvait s'installer rue Saint-Denis.
Au cœur des Halles. C'est quand même
et
assez
tout est dit.
Dingue. Et tout est dit. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, Web de Luxe.
Sandy Prenois qui brille de mille feux.
Hey, pour c'est Noël, Noël. Noël. Oui, comme ça je me mets.
N'hésitez pas, debout.
Allez, qu'est-ce qui se passe sur le web?
Bah, toujours beaucoup de choses. D'abord, ce site Webopit, c'est marrant comme nom. Webopit.fr, mode homme, femme, lingerie, accessoires, chaussures, maroquinerie, tout ça, on s'habille de la tête aux pieds. Des pièces de créateurs telles que Bureau Tonique, Ellie Grita, Les Folies d'Agnès, bien d'autres. Ils sont 33 référencés en tout. Il y a une centaine de pièces. Ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'il y a à peu près 70%, enfin jusqu'à 70% sur tous les articles. Pourquoi?
Pourquoi?
Ah, et bien voilà, et ben c'est là que tout se joue. C'est parce qu'en fait, ce sont des pièces de collections passées de ces créateurs.
C'est de la outlet, en fait.
Exactement, de la outlet. Et on veut effectivement redonner une vie, une seconde vie à ces
accès. Parce que ce sont quand même des créateurs assez pointus, des jeunes créateurs. Ouais. Donc effectivement,
complètement.
C'est bien de retrouver leur dernière création, leur avant-dernière, pour le coup, création. Donc comment ça s'appelle?
Ah, vous me parlez
Web
de
Pop-It.
Ah, Web Pop-It.
Web Pop-It.
Ah ouais, j'ai cru que vous me lanciez sur le second sujet.
Non, Web Pop-It, très Web bien.
Bah, allez-y, je n'ai pas, allez-y.
Non, mais j'allais continuer, je fais mon sujet comme et ça, tout seul, je suis lancée. Voilà.
Alors, sur Instagram.
Instagram avec Carolina Ritzler. Carolina Ritz, on en avait déjà parlé à ses débuts. La maison, vous le savez, a véritablement décollé. Il y a toujours eu beaucoup de nouveautés dans cette maison. Il y en a encore, je m'arrête sur une. 18 mini-films, 18 comme le numéro d'urgence.
Je me permets de vous arrêter parce que pour les infidèles de Good Luxe, on rappelle quand même que c'est une créatrice de mode qui s'est fait connaître par ses combinaisons.
Combinaisons, voilà. Carolina Ritz, j'en avais jamais été complètement enflammée et j'ai pas eu tort, c'est vraiment fantastique ce qu'elle fait. J'étais partie sur mon petit 18 numéro d'urgence, foncez-y, il est urgent d'aller les découvrir, ces 18 vidéos sur Instagram, on les voit là qui défilent. On s'y approprie la nouvelle collection de Carolina Ritzler, des talons dorés, du blanc, on est au tennis version Match Point, Woody Allen, on est aussi à la piscine, tout ça en étant super chic. On a aussi des petites t-shirt logoté 90s, vous savez, avec les vignettes un petit peu arrondies comme dans les vieilles bagnoles.
Ah, c'est la vignette automobile, l'une des dernières d'ailleurs qu'on collait au pare-brise de nos voitures,
les 90. Elle les a un petit peu retravaillées, mis sur tout un tas d'articles, c'est franchement sympa.
C'est très estival, ça.
C'est la collection printemps.
Enfin, c'est la...
Un peu de soleil.
Hein.
Vous travaillez dans la mode aussi un petit peu, Emmanuel. Oui, c'est pas que dans le food.
Vous savez qu'aujourd'hui, ça ne marche plus, ça. Les collections, les...
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est plus de saison, mon
bon monsieur. En tout cas, c'est franchement sublime. Mais comme d'habitude chez Carolina Ritz, allez-y. Et puis, ça a dénoté en plus cette campagne de communication sur Instagram parce que 18 mini-films comme ça présentés de la sorte, c'est assez moderne, c'est assez rare. Vous ne le voyez pas.
Si, ou alors les grandes maisons de luxe qui ont beaucoup de moyens.
Si, non, si, on ne voit rien de ce que fait Carolina Ritzler, elle est l'unique.
Oh là là. Oula, non, j'aime beaucoup,
bien.
Là.
Je suis pas bien, c'est pas bien de dire ça à un journaliste. Normalement, on ne prend pas parti.
Donc, 251 rue Saint-Martin. Si
voilà, 251 rue Saint-Martin ou évidemment l'e-shop carolinaritzler.com.
Eh bien, merci Sandy. Un petit bar, quand même, Emmanuel.
On l'a évoqué, on l'a annoncé, puis on l'a évoqué, on l'a enfin testé. C'est une mission dédiée au chef. Il y en a un qui est quand même vraiment en train de devenir l'un des patrons du food business. Il s'appelle Cyril Lignac. Il ouvre le bar des Prés au 25 de la rue du Dragon, tout à côté de son Chardonnay des Prés qui a été débaptisé cette année pour s'appeler Les Prés tout court. Et c'est l'un des premiers grands chefs qui vient verser du côté de l'idée du bar à manger, du bar à cocktail. Ils ont tout fait, les chefs, des bistrots, des brasseries, des pâtisseries. C'est le premier à comprendre qu'aujourd'hui, le genre du bar à cocktail est aussi en train de devenir un genre gourmand. Alors le lieu est très réussi, signé par le studio K.O. Vraiment dans les codes de la nouvelle rive gauche, finalement assez confort, assez calfeutré, un très bon barman qui revisite beaucoup les classiques. On est dans le 6e, il faut bousculer les choses, mais avec beaucoup d'élégance. Donc vous allez avoir des cocktails Alexandra, des Manhattan, des Cosmopolitan légèrement soufrés. Et puis en clair de cuisine, il fait ses petites assiettes, des petites assiettes d'appui. Alors, il faut savoir qu'il a un petit souci, c'est qu'il n'y a pas d'extraction, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de cuisine derrière. Donc, il s'est dit, du fait de mes problèmes et de mes contingents, je vais essayer de créer une cuisine en fonction. Donc, on est beaucoup dans le cru, on est beaucoup dans le petit appoint. Alors, ça va se jouer avec une brioche. Alors, ça brioche avec un mix de homard. Elle est juste brûlée au chalumeau à la dernière minute, délicieuse. Notre ami Lignac, en bon avéronais, il a compris quand même dans le cru, il y avait un genre et des chefs qui étaient des fines lames, c'est les japonais. Donc il travaille tout un tas de makis, de sashimi, de sushi et de California rolls avec une vraie fine lame japonaise. Donc on a toute l'exigence de la coupe et du produit japonais, mais il y ajoute de la gourmandise. C'est très, très réussi. Et j'allais dire, les beaux crânes de la rive gauche, on les déteste pas, la germanocratie, malgré tout, un peu de dose de parisianisme, ils sont tous là.
Bar des Prés, 25 rue du Dragon, dans le 6e arrondissement de Paris. Allez, un deuxième hôtel, je vous l'annonce un petit peu en avance, mais comme ça, au moins, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. La maison Albar, hôtel Paris Céline, qui ouvre au mois de janvier. Pourquoi ça s'appelle Céline? Eh bien, parce que 23-25 rue du Pont-Neuf, le bâtiment abritait la maison Céline, la maison de mode, tout simplement. Donc, c'est hôtel 5 étoiles, 60 chambres, et imaginé par Céline Falco, née Albar. Elle est issue d'une ligne d'hôteliers, et du coup, d'une lignée d'hôteliers, et du coup, c'est que le premier opus. Vous allez voir qu'il y en aura bien d'autres, donc j'aurais bien fait de vous annoncer celui-ci. Le petit spa, c'est 5 mondes, marque bien connue. Dans le bâtiment construit en 1866, préférez la suite au dernier étage avec vue à 180 degrés sur la capitale. Assez génial.
Et ils sont bien placés. Hein.
Ouais, ouais, ils sont super bien placés. Et on est dans l'efficacité, le sobre chic.
Il y a un restaurant.
Voilà. Il y a un restaurant.
Il y a un bar. Oui, bien sûr.
Hein, non, c'est non, assez génial.
Je vous pose la question, parce que moi je prends des notes, il va falloir que je travaille comme en 2017.
Non, la déco, il y a un peu de déjà vu avec ce plafond, vous savez, en rainure boisée. Mais bon, mais c'est très réussi. Odette, c'est quelque chose. La Maison Rostand.
Ah, c'est eux.
Voilà.
Ah, mais je savais pas. Oui, on part rapidement à la Maison Rostand qu'on ne présente plus. Michel Rostand, grand restaurateur,
voilà.
C'est
fini. Vous irez tester.
Ils ouvrent un nouveau restaurant en forme de rôtisserie. Ce sera donc dans cet hôtel Maison Albar. De toute façon, ça va être plein. Prenez, vous avez l'adresse, le portable.
Ben, bien sûr, j'ai l'adresse. Où est mon adresse? Eh ben, écoutez, j'ai pas l'adresse. Ben voilà.
Tu dois écrire en bon titre là.
Ben c'est bon.
Oh, c'est la dernière année, on a le droit d'être un petit peu.
C'est la dernière de la saison, on est mort. Quand même, on finit avec une petite bûche, même si c'est le week-end de Noël. C'est peut-être un petit peu tard, mais en dernière minute, vous allez dans n'importe quel palace. Si vous n'avez pas le temps d'aller l'acheter, vous allez la déguster sur place. Et la petite sélection, allez, je vous l'ai fait dans le désordre pour mes petits coups de cœur. Je prends totalement parti des bûches en forme de bonbons. Par exemple, celle de l'hôtel Nolinski avec Yann Brice, chef pâtissier, meilleur ouvrier de France. Celle-là, c'est celle de Mathieu Bijoux, un jeune chef pâtissier rue Charlot, qui est absolument génial, qui fait une bûche à la truffe. Donc celle-là, c'était celle de... Yann Brice. Là, on est au Shangri-La avec un sapin tout rouge. C'est impossible à découper, mais c'est vachement beau. Ça, c'est un vrai coup de cœur. C'est le Meurice. C'est Cédric Grelet. Une bûche toute noisette et un énorme bonbon doré. Là aussi, c'est absolument génial.
Le Meurice et le jeune chef
Mathieu Bijoux, 28 rue Charlot. Et celle qui ressemble à une vraie bûche en bois, esthétiquement absolument magnifique, c'est celle de Stéphanie Lequelec et de son chef pâtissier au Prince de Galles. J'aime moins le goût, mais elle est super belle avec une coque en chocolat. On a vraiment l'aspect du bois. J'ai choisi des choses toutes simples pour les avoir goûtées. C'est génial. Et de toute façon, vous y allez, vous allez choisir. C'est maintenant qu'il faut y aller. Et dans les palaces, ce qui est pas mal. Non, mais ce qui est pas mal, c'est jusqu'au 31 dans les palaces.
Et ben voilà.
Si vous restez au tea time, etc., vous pouvez reprendre une petite part de bûche. C'est tellement bon. Merci infiniment, Sandy Prenois, pour cette magnifique chronique. Nous, allez, on continue, on passe à table. C'est l'heure, non?
Avec des chefs, des vrais.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, le luxe de la semaine.
Et le luxe de la semaine, bien sûr, comme on y est, c'est de s'offrir une belle table de Noël avec les meilleurs chefs du moment dans la capitale française. Nous sommes donc en compagnie, c'est totalement subjectif, hein, notre choix,
que...
mais vous allez voir quand même que c'est le haut du pavé. Avec Christian Le Square, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle rapidement le petit pédigré chef 3 étoiles du restaurant Le 5 au Four Seasons Georges V depuis octobre 2014.
Les 3 étoires, c'était cette année.
C'était en 2016, voilà. Exactement.
C'est ça. C'est
pas pour ça qu'on vous a invité, mais quand même.
Allez, merci, on continue la bataille d'étoiles. Mathieu Paco, bonjour.
Bonjour.
Chef et propriétaire des restaurants Histoire, Hexagone, 3 étoiles aussi, de plus une, et Dibelec.
C'est ça.
Ça, c'était la nouvelle aventure de cette année. Toute récente, hein, il y a à peine quelques mois. Allez, on va faire la pâtisserie avant le reste de la cuisine. Yann Coureur, bonjour.
Bonjour.
Chef pâtissier, vous avez ouvert votre propre pâtisserie. Allez, on donne tout de suite l'adresse, 137 avenue Parmentier. Dans le 10e, voilà où vous êtes chez vous. Et puis Yves Candebord, bonjour.
Bonsoir.
Chef de file de la bistronomie, propriétaire depuis 2005 de l'hôtel et du comptoir Relais Saint-Germain. Et donc si on additionne, on est à 3 avant-comptoirs, c'est
3 avant-comptoirs, oui.
Avec le tout dernier, celui dont nous a parlé Emmanuel il y a quelques temps.
On a réussi à en ouvrir 2 en un an. Il y en avait déjà un qui était l'avant-comptoir du marché.
Ouais, du marché.
Et puis ouvert début du printemps, l'avant-comptoir de la mer. Et puis alors là, en embuscade, à la fin de l'année, en plein cœur du marché Saint-Germain, l'avant-comptoir du
cochon.
Vous allez voir, c'est une sacrée histoire. Ça réinvente vraiment, ça prouve surtout qu'il y a une vérité du comptoir parisien et qu'on n'est pas toujours obligé de convoquer des manières de tapas, de bar à manger, qu'en fait, il faut se laisser aller, qu'il y a une vraie mémoire des choses, il faut juste les réactiver. C'est ce qui réussit. On va en parler.
Très bien. Je regardais juste quelque chose, Yves Candebord. La première fois que vous êtes venu dans l'émission Goût de Luxe, c'était en septembre 2006. Donc, on fait nos 10 ans avec vous, pratiquement.
Comme quoi,
on a grandi ensemble.
Et la fidélité, ça paye.
Et ben voilà, exactement. Bon, allez, blague à part. On commence honneur à la grande table.
Honneur à le square. Après tout, il a eu des 3 étoiles. Enfin, certains s'en foutent, mais lui, il s'en fout pas.
Non, parce que je m'en fous pas, parce que j'avais un contrat sur la tête.
C'est vrai. Alors, il faut quand même dire que, effectivement, Christian Le Square, on va pas faire le pédigré. Vous avez, pas tout le pédigré, mais 3 étoiles du temps de doyen. Vous partez pour orchestrer les commandes du Georges V à l'hôtel Four Seasons Georges V à Paris avec une mission. Vous avez l'un des premiers chefs à dire, moi, j'avais une mission. C'est que dans les 2 ans, il fallait que j'ai 3 étoiles.
Exactement. Et pour ça, j'ai fait rentrer de l'artisanat au sein de ce palace. Et comme Yves, justement, parce qu'on a grandi ensemble dans les tables parisiennes, on fait des petits plats, des petits produits comme du boudin, comme des produits très simples, et que j'ai fait rentrer justement dans ce palace. Donc on a réussi à recapter une clientèle parisienne, plus des étrangers, qui nous permettent aujourd'hui de briller en disant on vient chercher du goût à la française dans un palace et non pas une cuisine internationale.
Alors des produits simples qui sont quand même un tout petit peu rhumatricés. Il y a un plat qui a marqué la saison, c'est votre fameuse soupe à l'oignon. Alors ça, c'est vraiment le plat du terroir parisien pur et dur, celui qu'on connaissait dans les bouillons, dans les bistrots, dans les brasseries. Et vous avez réinventé cette soupe à l'oignon. Mais alors, c'est pas tout à fait une soupe à l'oignon quand même.
C'est une gratinée à l'oignon qui est servie comme une soupe à l'oignon, qui est servie sur une assiette plate. Finalement, quand vous avez ces petits modules qui viennent éclater sous le palais, vous avez toute cette saveur de cette soupe qui vient exploser.
C'est une soupe, mais qui est presque... Elle n'est plus tout à fait liquide, elle est presque solide.
C'est un coulis. C'est un coulis qui, justement, ce sont des petits modules qu'on a fait prendre, justement, dans une membrane à base d'œuf. Et dès que l'œuf chauffe, ça vous fait une pellicule, et là, très légère. Et vous avez ce coulis d'oignon, en fin de compte, qui vient exploser ses saveurs en bouche.
Ah,
et
il y a un
aromage qui se fait.
Ça paraît tout simple.
Non, ça paraît pas du tout simple.
Non, mais raconter comme ça, quoi. Oui. Ouais.
Mais j'ai gagné le cœur, justement, de tous les Parisiens avec une gratinée à l'oignon. Et je pense que des petits produits dans les palaces aussi, on peut les trouver quand vous avez des chefs qui se remettent en question en faisant venir ces matières premières de qualité.
Je suis d'accord, mais à condition tout de même qu'il y ait... parce que autrement, ça ne servira à rien. Si c'est pour servir une soupe à l'oignon dans un 3 étoiles, même si les produits sont de grande qualité, tu te dis pourquoi j'y viendrais. Je peux éventuellement m'y colter moi-même. C'est que reconnaissez quand même que cette soupe à l'oignon, il y a un sacré savoir-faire là-dessus. Et c'est pour ça que ça en justifie l'audace et le prix.
Mais pour ça, quand je suis arrivé justement à cet hôtel, j'ai décidé de mettre à recherche et développement comme un parfumeur, comme la cosmétique, de façon à faire des essais tous les jours. Il y a une personne tous les jours qui fait des recherches sur les saveurs, sur les techniques. Et ça nous permet de mettre toujours cette cuisine en mouvement.
C'est qui le nom de cette personne ?
Je le dirai pas.
Ça m'intéresse, faut bien que je gagne ma vie dans les années à venir. C'est qui ? La recherche-développement du côté du Georges V.
C'est moi le palais.
D'accord.
Alors, je rappelle, au passage, qu'outre les 3 étoiles, on est à 5 toques au Guide Gomio 2016, parmi les 4 meilleures tables de Paris par le Guide Le Bay 2016, et 5 par le Gomio 2016, et 19 sur 20. Voilà.
Et vous avez oublié quelque chose ? Chef de l'année.
Et chef de l'année.
Par mes pères.
Oui, mais...
Non,
je t'ai plus. Non, je t'ai plus.
Il y a trop, les gars, à la fin.
Faut partager. Mathieu Paco.
Non, mais j'ai envie d'en 3-4, là, il y a quoi aussi Maître rôtisseur, chevalier de la truffe, grand pâté, 19 ans. Non, allez, hop, c'est bon. Il y a 2-3 qui comptent, le reste, c'est superflu.
Mathieu Paco, histoire au pluriel, hexagone, dans l'ordre, hexagone, histoire et Divelec. Vous allez vous arrêter là ou pas?
Non.
Bah non, j'imagine. C'est quoi la suite?
Là, il y a 2 restaurants à Mourtelis cet été, en Corse encore.
Ouais, vous retournez en Corse.
Eh oui, il faut. Mmh. Et Macao, l'Ambroisie à Macao, qui ouvre le 1er juillet.
Ah d'accord, mais tout ça, c'est pour cet été.
Ah oui. Alors, mais c'est mon deuxième semestre.
Ah, c'est le deuxième semestre. Divelec, alors vous en avez fait quoi?
Ce qu'était le Divelec, qui est une adresse cultissime à Paris dans les années 80-90, orchestrée par un grand chef qui s'appelait Jacques Le Divelec, l'adresse de la mer, qui avait fermé pendant 3-4 ans, je crois.
3 ans,
perdu de vue totale. Et en même temps, il y avait quand même la magie de ce nom. Qu'est-ce qui vous a pris de reprendre une adresse comme cela, qui avait eu son passé, mais en même temps qui avait fermé? Comment on relance une adresse pareille? Et surtout, comment on en fait un succès?
Un succès, on en reparlera dans 2 ans, mais...
Il y a du monde, pour l'instant, faut que ça dure.
Mais non, je voulais faire un restaurant de poisson, et puis c'est avéré que le Divelec était à vendre, et je me suis dit, bon, bah, Christian Le Square est travaillé là-bas, je me suis dit, ça porte chance.
C'est le premier commis de Jacques Le Divelec.
Ah, comme quoi, ça mène à tout.
Voilà, le poisson mène à tout.
Le poisson mène à tout, oui.
Qu'est-ce que vous avez gardé, qu'est-ce que vous avez changé?
Alors, j'ai tout changé et j'ai tout gardé.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai complètement... Bon, j'ai beaucoup agrandi le restaurant qui était... il manquait quelques mètres carrés, donc on a rallongé 150 mètres carrés. J'ai changé toute la déco, toute la cuisine, la façade, les vitres, tout. Et j'ai gardé le concept du produit de la mer. Parce que je voulais faire un restaurant à la fois dans un beau quartier, convivial, sympathique, autour des produits de la mer. Je trouvais que ça manquait à Paris.
Alors comment vous allez travailler cette mer? Parce que cette carte, elle largue les amarres effectivement de tout ce qui fait la cuisine marine aujourd'hui. On travaille sur le cru, on travaille sur le plat de partage et le poisson grillé, on travaille aussi sur le plat signature.
Bah, l'idée c'était de mélanger un petit peu la brasserie, le bistrot avec la grande gastronomie, de mettre tout ça ensemble et surtout de pouvoir passer un moment de partage dans un restaurant. Parce que souvent, dans les grands restaurants, les grands trois étoiles, ouais, quelques-uns, mais c'est très individuel. Chacun sa petite réglette avec son petit machin et ses petits trucs. Moi, ce que je voulais, c'était que les gens puissent commander plein de choses et puissent le mettre au milieu de la table et se servir, mais dans des bonnes conditions. Et c'est forcé de constater que ça marche pas trop mal.
Alors justement, c'est ça, parce qu'une fois que le chef le décide, en a envie, construit sa carte, orchestre en disant bah tiens voilà des poissons gris que vous allez pouvoir partager ou des plats beaucoup plus travaillés au guéridon, ils sont pour 4 ou pour 6. Est-ce que le public finalement joue le jeu ou est-ce qu'il est complètement paniqué? Il se dit bah non, en fait j'ai tellement l'habitude à ce que tout soit réglé que j'ose pas aller comme cela, surtout dans un cadre qui, même s'il est beaucoup plus souple qu'il était un grand restaurant, reste quand même un cadre joli, parisien, voire parisianiste. Est-ce qu'il joue le jeu ou pas?
Bah, la moitié joue le jeu, l'autre moitié ne joue pas le jeu, et c'est pour ça qu'on a fait les deux.
C'est pragmatique. L'avant-comptoir de la mer, avant que vous ouvriez l'avant-comptoir du cochon et qu'on déborde, c'est l'idée du partage aussi.
Ça, oui, c'est l'idée du partage, parce qu'après les avant-comptoirs, c'est vraiment des lieux, voilà, si je peux me dire, c'est des lieux sociaux, c'est les bistrots parisiens avec un peu disparu, les vrais bistrots parisiens, c'est les comptoirs de quartier avaient disparu, et là on a essayé de recréer un lieu, voilà, où on mange bien, où il y a une sélection de vins que nature, il y a des produits qu'on essaie de prendre les plus beaux produits qu'on peut trouver. Et surtout, c'est amener de la chaleur humaine. C'est amener ce que les gens s'y retrouvent, les gens discutent, les gens se rencontrent, les gens partagent. Là, je pense que c'est la culture, vraiment la culture du comptoir par excellence, et surtout à Paris.
Donc l'avant-comptoir de la mer et maintenant l'avant-comptoir du cochon.
Oui, on a lancé le cochon maintenant il y a simplement 10 jours. Voilà, moi je suis né dans une porcherie. Donc là, je suis né dans une ferme.
Mais pour de vrai.
Et mon animal préféré est le cochon. D'ailleurs, c'était toujours mon sigle dans tous mes restaurants. Ça a toujours été ma marque, le cochon. Et là, je rends un hommage au cochon. On élève des noirs de Bigorre avec mon frère Philippe. Et donc, on fait entièrement la charcuterie de A à Z et les salaisons. On essaie de mettre en valeur ce produit qui est le Nord de Bigorre. C'était un cochon qui a failli disparaître il y a une quinzaine d'années. C'est une famille Bonicelli avec les salaisons pyrénéennes qui les ont remis en valeur. Donc on essaie de le retravailler. C'est le cochon peut-être qui est le plus proche de l'Ibérique.
Il n'y a que du cochon
de A à Z. Voilà. On le travaille de toutes les façons. Après, bien sûr, Laurent, j'ai envie de vous dire, on le rend quand même de façon, on le travaille de façon moderne. Certes, il y a toute la déclinaison de salaison qu'on peut connaître, du pâté de tête au fromage de Bourgogne, aux tripes, à tout ce qu'on peut faire autour du cochon.
Des alliances après, avec aussi il y a beaucoup la mer, le potager.
On l'a retravaillé de façon, voilà, je suis quand même cuisinier, je ne suis pas charcutier à la base. Donc j'ai essayé de remettre en valeur toutes les techniques, toutes les recettes que j'ai pu apprendre dans les maisons où je suis passé. Donc on fait des mariages assez étonnants avec le cochon. Et ça peut partir, voilà, des cochons cuits au foin, des cochons accompagnés avec du foie gras, des cochons avec des huîtres, des cochons avec du homard.
Ah oui.
Voilà, c'est vraiment, je veux dire, c'est le cri de cœur du cochon parlé à l'excellence.
Allez, on passe direct parce que là, on fait le tour de table. On reparlera aussi la structure. On parlait du comptoir, on est vraiment dans le comptoir, pas simplement dans le bistrot. Pas vraiment d'ailleurs dans le comptoir.
Il
y a le couvreur, la pâtisserie. Il fallait bien qu'il y ait un pâtissier, puisque depuis 10 ans maintenant, il y a toujours un pâtissier dans nos pâtes.
Et d'ailleurs, c'est ce qui a le plus de succès. Hein.
C'est Yann Couvreur.
Auprès des femmes, on a vu ça. Que les cuisiniers, c'était terminé. Maintenant, c'est les pâtissiers, quoi. C'est ça, hein. La revanche du sucré dans tous les canards, ouais. Des becs sucrés, la revanche du sucré.
Moi, je me sens pas particulièrement revanchard par rapport à ça. J'ai toujours bien vécu le fait d'être en retrait à l'époque où, parce que moi, j'ai fait l'essentiel de mon parcours dans les restaurants.
Carré des Feuillants, le Burgundy, Parc Hayat Paris-Vendôme, Eden Rock Saint-Barth, et puis le Prince de Galles, par exemple.
Et le Crayon Palace aussi.
Ouais.
Voilà, donc j'ai toujours appris à côté de grands chefs cuisiniers. Donc c'était toujours intéressant, mais j'ai pas eu de revanche particulière.
Sauf que vous avez quand même ouvert votre petite boutique.
Ben justement, c'est intéressant. Quand est-ce qu'on décide quand même, sans revanche, comme vous le dites, c'est fini, ça fait 10 ans que les pâtissiers sont quand même installés, reconnus, voilà. Les chefs jouent le jeu, signent les cartes. Ouais. En revanche, on voit les pâtissiers qui, en profitant de cet élan auquel ils donnent de la restauration, à un moment donné, décident d'ouvrir leur propre boutique et de revenir à ce qu'est la vérité d'un pâtissier, c'est d'avoir sa propre boutique.
Exactement, c'est l'aboutissement d'une carrière, c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Je pense qu'on est, enfin, moi, je redémarre complètement une nouvelle vie, celle d'entrepreneur, donc avec des réalités bien différentes. Et je suis ravi de ça. J'ai gagné ma liberté, mais bon, j'ai perdu aussi, voilà, la restauration. Même si j'essaye de la garder à travers des desserts assiettes minutes faits dans ma boutique, et c'est ce qui vraiment fait notre différence aujourd'hui. On a une carte de dessert à l'assiette qu'on peut consommer sur place ou même dans la rue s'il faut, servi dans des assiettes à ciel ouvert. Et c'est une sorte de façon de réinventer un petit peu la street food.
Et pour la bûche et les plaisirs de Noël, on va y revenir dans un instant. On fait une toute petite pause et on se retrouve tout de suite pour le Paris.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Nous sommes toujours attablés pour notre repas de Noël avec les chefs Christian Le Square, 3 étoiles au Four Seasons, Georges V, Mathieu Paco. Allez, j'en cite 3, mais il y a aussi l'Ambroisie, je n'ai pas cité tout à l'heure. Histoire, Hexagone, Divelec, avec Yves Candebordes, l'hôtel et comptoir Relais Saint-Germain et les avant-comptoirs, et Yann Couvreur et sa boutique avenue Parmentier dans le 10e. Donc c'est l'heure. Maintenant, fini la rigolade, on fait le repas de Noël avec vous, messieurs. Allez, pour l'entrée, Yves Candebordes, on vient de parler avec vous de l'avant-comptoir du cochon, mais là, vous nous faites sans cochon.
Ouais, sans cochon, parce que je pense que le réveillon de Noël, il faut démarrer quelque chose peut-être un peu plus léger, parce qu'en général, c'est des rayons qui durent, on va dire.
Oui.
Donc là, je passe sur une brioche perdue, une belle tranche de brioche, bien toastée. Je fais une mousseline d'artichaut, des artichauts cuits dans de l'eau, bien mixés, légèrement montés à l'huile d'olive. Après, si on peut, si on a de la truffe, une pointe de truffe. Ouais. On tartine et dessus on va déposer des légumes. On va prendre tous les légumes de saison qu'on peut trouver en ce moment, qui vont être soit poêlés, soit cuits dans l'eau. On les dépose, on les de façon un peu, je dirais, que ça fasse quelque chose de géométrique et que esthétiquement soit joli. Juste recouvert dessus, un petit trait d'huile d'olive, une râpée de truffe, un petit copeau de parmesan. On passe ça au four 2-3 minutes et on a une entrée. C'est facile, ça fait de l'effet et surtout c'est très bon.
Et si on a un bon boulanger pâtissier, on peut finalement se faire fournir la brioche.
Non, mais j'ai envie de vous dire.
Il faut juste aller capter les bons légumes de saison, les bons légumes d'hiver,
la bonne brioche.
Gentiment les travailler,
vous
bien les assaisonner et
bien sûr, remettre
Moi j'habite à côté. J'habite à côté, je vais la chercher tous les dimanches matin. Je peux vous dire, allez-y, c'est pas la peine d'essayer de la faire.
Exactement.
Elle est exceptionnelle. Une belle tranche.
Merci.
Combien
de mètres par franc 50 centimètres.
Christian,
je te promets, c'est une pure merveille.
Allez, puisque vous avez la parole, Christian Le Square, plutôt du côté du poisson, vous, même si, bien sûr, il y a les menus de Noël au Four Seasons Georges V, le menu du réveillon, où il y a la totale hein, chez vous.
Oui, il y a toute... Là, pour Noël, moi, ce que je vais faire, ou ce que j'aime faire, c'est surtout le côté iodé.
Mm-hmm.
Et pour ça, je vais faire un concentré iodé. Pour chez moi, hein, pas au restaurant, finalement.
C'est quoi un concentré iodé ?
On va mettre beaucoup de puissance, on va travailler les oursins, avec la coquille Saint-Jacques, un peu de coulis de truffe, parce que, bon, finalement...
Elles ne peuvent pas s'empêcher.
Ah, non, pas.
Non, mais vous avez raison, après tout, c'est Noël.
Et du litchi.
C'est pas une super belle
litchi.
Un peu, voilà, du coulis de litchi.
Ok, alors, des oursins, c'est déjà très concentré en soi.
Alors, vous prenez les oursins, non, en deux mots, vous prenez les Saint-Jacques bien fraîches au marché le matin, vous les coupez très épaisses, marinez un peu d'huile, un peu de citron sur l'assiette. Vous prenez vos langues d'oursin.
Alors, dans l'oursin, on prend que la langue.
Vous faites ouvrir les oursins, ouais. Vous prenez que les langues, vous savez.
Ouais.
Ah, moi, de toute façon, ils font tout, voilà. Hein, les poissons.
Vous mettez justement une belle corolle sur vos corolles, vous mettez cet oursin.
C'est lui qui va assaisonner.
Voilà, qui va donner ce côté très concentré, très iodé. Quelques petits points de coulis de litchi, un peu acidulé avec du citron vert. Et vous voyagez, vous prenez le bateau, comme si vous preniez le bateau à Quiberon, pour aller à Béline, et vous avez tout ce côté iodé. J'adore. Qui vous arrive au niveau des narines.
Non, c'est pas mal, parce que très sincèrement, je veux juste la résumer. C'est bien quand tu comprends ça. C'est une demi Saint-Jacques, c'est pas du rond, difficile à couper.
Cru,
mais
cru.
Jus de citron.
Un peu de citron, un peu d'huile d'olive, c'est tout mariné à cru.
Après, je prends juste la langue d'oursin qui, elle,
va apporter la cuisson.
Il va venir fouetter.
Je vais pas le faire, mais je le dis pour ma femme qui elle écoute pour une fois. Et après, c'est le litchi, là, c'est quoi?
Un petit coulis de litchi, alors
c'est quoi un coulis de litchi? Travailler ou
travailler? Vous prenez du jus
et je le
citronné, un peu acidulé, puis c'est tout.
Et en voyage.
Attention,
parce que là, j'ai un chef à qui on va passer la parole qui a décidé de ne pas faire de poisson alors qu'il orchestre un restaurant de poisson cette année.
Mais moi, je suis
Mathieu
Bracot.
Ça serait la carte du Divelac.
Moi aussi, c'est je suis à moitié breton. Mon père est breton.
C'est vrai.
De Rennes.
Ce que j'aime beaucoup avec les Bretons, c'est quand même toujours le breton de. Ouais, c'est un breton de Rennes.
Moi, je suis un breton de Quiberon.
C'est pas avec les Corses.
Oh, les Corses, c'est pareil. Vous avez choisi la bonne matrice Corse au breton.
On a oublié la petite lamelle de truffe éventuellement, qui va être un petit peu le fil conducteur.
Oui, c'est bien sûr.
Éventuellement, on peut mettre ça dans une brioche.
On met,
ça marchera aussi.
La volaille de Bresse au beurre truffé.
On peut changer les truffes si on veut. Ça fait beaucoup de truffes sur le menu, donc ça marche avec tout.
Comme dit Yves, c'est Noël, c'est super bon.
J'ai mangé dans un restaurant, il y a quelqu'un qui fait une volaille au caviar. Ah,
ça marche, ça sincèrement.
C'est pas mal, ouais. C'était original, mais bon, c'est il faut la pocher, c'est autre chose.
C'est compliqué. Alors,
moi, c'est simple. Tu vas chez le boulanger. Chez le boucher, on prend une volaille de Bresse ou d'ailleurs, c'est pas obligatoire. On la prend, on demande à ce qu'elle la prépare, pour que ce soit plus simple. Comme ça, Madame Rubin aura pas. Déjà qu'elle a les mains dans les oursins.
Exactement.
Et après, on fait un petit beurre. Donc, on met 100 g de beurre, 30 g de truffe, un jaune d'œuf. Et un petit peu de chapelure, une petite cuillère à soupe. On mélange bien. On farcit la volaille sous la boue. Une petite ficelle pour l'attacher. Au four à 180 degrés pendant une demi-heure à la maison. Et après, on éteint le four et on la laisse reposer dedans. Et ça reste chaud. Comme ça, quand on a fini avec les oursins et la brioche, on n'a plus qu'à sortir sa volaille et on la lève.
Et donc, vous mettez ça sous la peau?
Sous la peau, avec une petite poche.
Nickel.
Non, toutes les ménagères savent faire ça. On lève la peau, on met les doigts pour...
Toutes les ménagères,
les doigts,
mais regardez ça. Mais c'est mon âme qui fait la cuisine. Pas la ménagère.
Moi, je cuisine pas à la maison.
Non, c'est marrant parce que souvent, on parle de volaille. Alors, chacun sa technique. Chaque année, il y en a qui la poche. Là, ce qu'on aime finalement, c'est que la chair, le blanc de volaille, soit comme un buvard qui l'imprègne bien. Bah, quand on la cuit comme ça, est-ce qu'elle garde ce fameux moelleux?
C'est pour ça qu'elle reste moelleuse, parce que le beurre, la volaille, c'est sec.
C'est le beurre
qui va là. Le beurre fond, la truffe reste parce qu'il y a le jaune d'œuf et la chapelure qui tiennent la truffe sous la peau.
Puis on coupe la cuisson à la fin.
Donc, on arrête, ça tire tranquillement. Et ça reste bien tendre et bien juteux parce que le beurre a nourri la volaille tout au long de...
C'est terrible parce qu'on voit les yeux des autres chefs qui
valident ou pas les autres. Non, c'est parce que chacun a sa technique, vous validez.
Non, mais ça marche, c'est ça. On l'a eu fait plein de fois, ça marche super bien. Et surtout, je pense que l'avantage, en plus, le beurre va nourrir. Ça permet de garder tout le moelleux à la volaille.
C'est le beurre qui vient nourrir.
C'est le beurre qui
nourrit. C'est pas le pocher, c'est le beurre qui vient nourrir.
Surtout, souvent, on prend la matière grasse de la volaille. Surtout à chapon, c'est très gras. Et justement, au lieu de prendre, on prend tout ce gras qu'on mixe justement avec. C'est ça, non? Au lieu de mettre du beurre. Non?
Moi, je préfère le beurre, mais bon, c'est une question de goût.
Moi, chacun son truc.
C'est étonnant, Christian, toi, breton, le beurre.
Allez,
ouais, c'est un breton,
moi, c'est le dessert, je veux savoir. Mais je sais pas les faire.
Alors, c'est jamais les faire, on va voir si c'est jouable.
Alors, d'abord, vous courez chez Yann Couvreur, il reste des bûches au marron avec le renard malicieux, ça, c'est votre petite pâte, votre petit animal fétiche.
On a fait une boutique éphémère pour samedi et dimanche. Dans le 8e, à la Madeleine, 7 rue Tronchet.
Voilà.
Du côté du restaurant de la Cramée. Qui a ouvert, qui est un des beaux restaurants de l'année.
Ouais.
Je trouve qu'il gagne en puissance à Cramée, qui était un chef pressé, mais qui commence à trouver une vraie identité.
Donc, la bûche là-bas.
Et donc, vous investissez son restaurant
la bûche
pour un pop-up.
Tous les produits de Noël,
bien sûr.
Les cadeaux déjà emballés, vous n'avez plus qu'à venir.
Ah ouais, vous faites des cadeaux pâtissiers?
Ouais, j'emballe mes chocolats, j'emballe mes pralinés, vous n'avez plus qu'à venir. C'est pour vraiment les retardataires. Parce que étant déjà assez mal organisé à ce niveau-là, je me mets à la place de mes clients et voilà.
Et alors, sinon, vous faites quoi? Un truc un peu frais?
Pour le 24,
le 31, le 27, le 28,
repas festif. Moi, en fait, c'est vrai que c'est des repas qui sont quand même assez longs. J'aurais tendance à privilégier le fruit, la légèreté. Moi, je partirais d'un quart de poire que je vais venir juste doré sur toutes ses faces.
Doré à la poêle.
Ouais.
Avec un petit
voilà,
peu de matière grasse.
Je débarrasse les petits sucs qui sont dans la poêle. Je vais venir les déglacer avec un jus de mandarine. Une moitié, l'autre moitié, je prélève les segments. Et puis à côté de ça, je vais faire quelques petites meringues, à la fois craquantes en surface et fondantes à cœur, ce qu'on appelle les pavlova. Mmh. Moi, je les fais en petit pour que chaque bouchée reste élégante et que le dessert ne se.
Alors, la meringue, c'est assez simple, on rappelle juste la recette.
Ouais,
on est
bah, c'est simple.
C'est assez
moi, je fais tant pour tant pour tant. C'est-à-dire, je fais on va dire 100 grammes de blanc d'œuf que je mélange avec du sucre. Je fais fondre mon sucre, je le dissous au bain-marie. Voilà. Jusqu'à à peu près 50 degrés, pas plus, ça sert à rien. Donc le grain disparaît. Vous pouvez le monter au batteur ou à la main si vous êtes un peu costaud.
Ça qui va donner de...
Voilà, elle va monter, s'émulsionner, s'alléger. Et les 100 grammes restants, je les mets en sucre glace à la Maryse pour pas que ça retombe. Voilà. Parce que si on a tendance à mettre les 200 grammes de sucre avec les 100 grammes de blanc dès le départ, la densité est trop épaisse et malheureusement, la meringue est plus lourde.
Voilà. Eh bien, moi, je vais préparer les petites poires et je viendrai chercher les meringues chez vous.
Voilà. Non, c'est ça. Bain-marie, 50 grammes, blanc d'œuf.
Non, mais c'est bon. Et donc,
sucre,
après
sucre
qu'on a les poires et la meringue.
Voilà, et bien après, on récupère le petit jus réduit avec la mandarine et les sucres de poire dans la poêle. On vient faire son petit dressage assez délicat. Et ce que je viens rajouter, moi, c'est un petit peu de crème battue. Alors, la crème battue, ce que j'appelle la crème battue, c'est ni plus ni moins qu'une chantilly un peu sous-montée, voilà, pour qu'elle reste vraiment dans le palais et qu'elle vienne vraiment épouser parfaitement les textures des sparring partners. Parce que c'est vrai que la pavlova et les fruits, ça marche toujours très bien. Et puis, la crème qui vient donner toujours la gourmandise. Même dans un dessert léger, il ne faut pas mettre de côté la gourmandise et le liant. Voilà.
Poire mandarine, fruits de saison, on n'oublie pas. Ils ne le disent pas, mais ils sont tous dans la saisonnalité, c'est important.
Donc c'est bon, ce sera le
meilleur. On peut finir à la truffe aussi, la pavlova. Quand il y a fait arrêter de la truffe.
C'est Noël.
Allez-y.
Mille merci, messieurs, pour ce repas de Noël que nous avons partagé, même virtuellement avec vous, mais on en a déjà l'eau à la bouche. Christian Le Square, donc, on vous retrouve au Four Seasons, Georges V.
Avenue Georges V, Paris 8e. Allez-y.
Merci pour les adresses. Mathieu Paco, vous donnez toutes les adresses?
La dernière, Divelec, c'est rue Faber, c'est pas difficile, c'est la grande adresse de l'esplanade des Invalides. Vous pouvez pas la louper, elle clignote.
Et Histoire Hexagone?
Histoire Hexagone, c'est Avenue Kléber.
Bravo. Yann Couvreur, 137 avenue Parmentier, dans le 10e.
Bravo à un pâtissier de l'avant-garde d'aller se colter enfin à ces quartiers-là.
Yves Candebord, l'hôtel, le comptoir Relais Saint-Germain, ça c'est quartier Carrefour de l'Odéon.
Ouais, c'est les
avant-comptoirs,
de Paris.
Vous demandez, c'est dans le coin.
Ah, ils sont tous dans le coin.
Tous dans le coin, le dernier, il est 14 rue Lobineau, à l'angle de Mabillon, dans le marché.
Au sein du marché Saint-Germain. C'est
merci.
Vraiment quatre grands chefs de la saison 2016 qui seront encore en 2017.
Bah, on l'espère bien. Merci mille fois. Très bonne fête à vous.
Merci.
Et nous, on continue encore un petit peu quand même. C'est l'agenda et puis on voyage un petit peu avec Capucine Gravier. Tout de suite.
Nous.
BFM Business, Goodelux Paris, l'édition du week-end.
Et pour cette semaine, pas de livre de la semaine, on vous en a donné toute l'année 2016 et tout ces derniers temps, on en a donné 4, je crois, la semaine dernière autour de la viande. Donc aujourd'hui, on va frôler l'indigestion et puis surtout, on est tellement content de retrouver Capucine Grabi. Good news d'ici et d'ailleurs.
Good news Paris, l'édition du week-end, d'ici et d'ailleurs.
Capucine Grabi, comment ça va?
Mais ça va bien, c'est sympa ce petit accueil que vous me réservez. Mais
oui, fondatrice du travel store My Moon Spots, vous êtes donc partie en voyage, non pas forcément en Croatie, mais en tout cas c'est là où vous nous emmenez, parce que nous on n'a pas encore préparé les vacances d'hiver, que vous voyez déjà l'été, c'est normal.
Bah oui, parce que la Croatie, il y a un petit segment entre début juin et fin septembre, donc 4 mois, et... Cet hôtel est absolument un petit miracle, un petit bijou. Donc il vaut mieux se précipiter dessus. Je vous emmène donc sur une petite île qui s'appelle Hvar, qui est un petit peu l'épicentre de la fête mondiale avec des fashionistas qui viennent se défouler dans les bars branchés.
Ah non, mais moi je vous donnerai du calme.
Alors du calme, c'est justement à 10 minutes de la ville de Hvar. Et là vous avez une petite baie qui s'appelle Little Green Bay. Et c'est donc le nom de ce petit boutique hôtel maison de famille qui a ouvert l'année dernière et qui est absolument fantastique. Alors, ce qui est génial, c'est d'abord cette baie, cette calanque aux autres en suicide, toute verte, sur laquelle vous retrouvez des petits coussins flottants, au fond quelques oursins, et puis il n'y a personne. Vous êtes au bout du monde, alors que vous n'êtes qu'à 2 heures de Paris.
Sauf que les oursins, on en parlait tout à l'heure avec Emmanuel, nous on aime bien les manger, mais en Croatie, il y en a pas mal.
En Croatie, il y en a pas mal, c'est un point qu'il faut relever, tout à fait. Il vaut mieux emmener quelques chaussures qui vous permettent de marcher, sinon vous piquez les pieds, mais si vous avez les bonnes chaussures, tout fonctionne bien.
Donc la petite calanque translucide, et après?
Et en fait, ce sont donc deux Français qui ont racheté cette très très vieille maison de famille, qui l'ont retapée avec la fameuse pierre de Brač, qui est l'île qui est en face. Et donc tout a été retravaillé à la main avec ces petites pierres blanches, ocre, qui ont été posées une par une. Et donc cet hôtel a un esprit un peu boutique hôtel pour le côté minimaliste et design, et en même temps un côté un peu maison de famille, puisque les enfants font de grandes tablées et s'y retrouvent, les parents un peu pareil, on prend des apéros avec les gens qu'on rencontre sur place. Côté déco, c'est très simple, un peu design, un peu minimaliste.
Le décor est à l'extérieur, quoi.
Surenchère. Tout se passe à l'extérieur, ouais. deux bistrots ouverts à toute heure. C'est un peu la paraison douce, on les arde. Même moi, je me suis laissée prendre au jeu.
Combien de chambres?
Une quinzaine de chambres.
C'est pour ça que vous me donnez maintenant, c'est le vrai cadeau de fin d'année, pour pouvoir partir bon moment, c'est maintenant qu'il faut réserver.
Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que la Croatie, c'est un petit peu la future Grèce, à mon sens, mais qu'aujourd'hui, il y a encore très peu d'hôtels un peu sympas, cool, comme celui-là. C'est un pays qui est en pleine renaissance, dans lesquels il y a un potentiel extraordinaire, mais il y a encore trop peu d'hôtels. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se précipiter sur ce petit Little Green Bay que je vous conseille vraiment du fond du cœur pour l'été prochain.
Comme on est au bord de l'eau, on fait tout ce qu'on peut faire au bord de l'eau. Ça, j'imagine,
paddle,
ils ont même un super bateau qui va avec.
Paddle, kayak,
pêche à l'oursin. C'est une technique, hein.
Observation de la planète Mars pour ceux qui aiment les étoiles.
Et on peut marcher sur la Lune aussi.
On peut marcher sur la Lune, voilà.
C'est
l'expérience My Moon Spot, évidemment. Moon, forcément. Il y a des îles qui sont à 2 heures de bateau de Little Green Bay, qui s'appellent les îles Kornati, qui sont des îles comme les îles croates, hein, très balayées par le vent, avec des calvaires, dans un paysage très pelé. Mais celles-là, elles sont absolument pas peuplées. Et ça fait vraiment penser à des cratères de Lune. Et donc, c'est à 2 heures de là, et vous êtes complètement dans un paysage totalement lunaire, surnaturel, qui vous permet vraiment de travailler votre imaginaire. Moi, je vous conseille.
Et qu'est-ce qu'on y déguste? Parce qu'il ne nous a pas encore parlé. Il y a un petit restaurant quand même sur place.
Oui, non, il y a deux restaurants. Et ben, c'est évidemment une cuisine locale. Et il y a cet agneau de Slovanie qui est cuit à l'étouffée, qui vous plairait beaucoup.
Oui, parce que, bien sûr. Mais c'est une vraie technique. Souvent, l'agneau, d'ailleurs, c'est propre à la Méditerranée. Vous savez, on les mettait sous croûte de sel, sous terre. C'est l'agneau de Sisteron, c'est l'agneau. On les travaille comme ça à l'étouffée. Ça permet de garder véritablement une chair le plus moelleuse possible. Et justement, tout ce qui est. L'agneau, c'est le parfum. Et la cuisson à l'étouffée permet de privilégier
Little
le parfum. Et quand
Green
on les rôtit, eh bien, l'agneau perd un peu de sa qualité et de texture et de parfum. Quand c'est à l'étouffée, on est dans l'intégrité de l'agneau. Ça m'étonne pas qu'on le cuise comme ça là-bas.
Faut aller à Little Green Bay, donc, pour découvrir tout ça. Et surtout sur le site My Moon Spots. Merci.
Merci, Karine.
À vous, Capucine. Allez très rapidement, l'agenda.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. L'agenda.
Le Festival des Merveilleux, Emmanuel.
Le Festival des Merveilleux, c'est la 7e édition. Ça commence le lundi 26, c'est-à-dire demain ou après-demain pour ceux qui nous écoutent, jusqu'au 2 janvier. Ça a lieu dans un musée dont on parle pas assez souvent, que j'adore. C'est le musée des Arts Forains. C'est à Paris, au 53 de l'avenue des Terroirs. C'est dans le 12e arrondissement. Et chaque année, ce musée qui rend hommage à l'esthétique foraine, avec les plus beaux manèges, ceux des jadis, ceux des naguère, les plus beaux stands de fêtes foraines. Et bien, cette année, ils l'accompagnent, ce musée, qui est déjà un musée formidable en soi, déjà merveilleux en lui-même. Ils accompagnent d'une scénographie. Ils vont réinventer une espèce de rue de Paris. Et c'est vrai qu'on est dans la fête foraine, mais un peu au-delà. C'est un conte de fées. Il était une fois les Arts Forains. Allez découvrir ce musée-là. Il va encore mieux quand on le découvre justement dans cette période de fête, parce que ce qui fait, j'allais dire, clignoter le rêve un petit peu des fêtes et des enfants, tout le monde a un petit peu un peu plus de lumière dans les yeux. C'est un très très beau festival.
Et donc rapidement, les champagnes des vignerons qui se regroupent à Paris, c'est jusqu'au 31 décembre, ça s'appelle l'Instant Champagne. On retrouve 24 vignerons qui présentent donc leur boutique éphémère jusqu'au 31 décembre. J'ai oublié ces quatre grandes régions champenoises, j'ai oublié l'adresse, donc vous cherchez en tout cas. C'est dans Paris, c'est Champagne des vignerons. C'est la fin de l'année, donc j'en profite.
C'était bien de finir en Champagne en tout cas.
Du coup quand même, puisque c'est la dernière émission de 2016, j'en profite pour remercier toute l'équipe, bien sûr, en régie, nos fidèles chroniqueurs, Capucine, Sandy, mais aussi Lionel ou Christopher, notre producteur Julien, les équipes en régie qui sont très nombreux, tous ceux que j'oublie, et puis surtout mon fidèle complice Emmanuel Rubin. À très bientôt.
BFM Business, Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end.